Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Il est 19h pile 00, c'est magnifique. Lors de Cop Aiglon, votre magazine 100% OGC Nice, le gym renversant ou presque face au Stade Brestois, match nul 2-2 après avoir été mené 2-0 à la pause. Scénario impensable il y a encore quelques semaines. Deuxième point pris cette saison dans ces conditions après le 1-1 contre Strasbourg, les deux sous Claude Puel. Coïncidence? Je ne crois pas, hein, personnellement. Le OGC Nice qui grappille un point sur Nantes et qui porte son avance à 8 longueurs sur la place du barragiste. Il ne manque statistiquement que 4 victoires pour être mathématiquement sauvé à 14 journées de la fin de ce championnat. À 18 clubs au sommaire ce soir, le débrief de ce Nice-Brest de partout. Ce sera en première partie d'émission et puis la deuxième partie consacrée évidemment d'une part au top flop de la rencontre. Et puis au focus consacré au derby de la semaine prochaine, l'OGC Nice et l'AS Monaco, deux formations qui retrouvent progressivement des couleurs. Laquelle voyez-vous favorite dimanche prochain à 15h? Mes invités en débattront dans ce 23e épisode de la 5e saison de Cop Aiglon. On est parti. Et autour de la table ce soir, le même plateau que la semaine dernière. Je me suis dit, on a gagné 4-1 face à Nantes. Je vais retenter pareille expérience. C'est pas passé loin, Nico, qui est avec nous, Nanino, ce soir.
C'est pas passé loin, mais content d'être avec vous de nouveau pour parler du gym.
Et vous étiez à la Turbie dimanche pour aussi un événement qui fait du bien dans la sphère OGC Nice.
Ouais, vraiment un gros clin d'œil au centre de formation de manière générale. Il y a cette équipe de la Gambardella, enfin les U19 de la Gambardella qui ont éliminé tour à tour l'OM et Monaco. Une victoire méritée, et franchement je trouve que c'est important de mettre en avant ce qui se passe au centre depuis quelques années maintenant, parce qu'il y a des gros talents. L'image qui est véhiculée par les joueurs, par les éducateurs, elle est juste magnifique à voir de l'extérieur, donc c'est important je trouve de les mettre en avant, et j'ose espérer que dans le projet qui arrivera à Nice, on fera confiance aux jeunes.
Tirage au sort d'ailleurs ce jeudi, tirage au sort des huitièmes de finale de Coupe Gambardella. Guillaume Grasso est avec nous ce soir, journaliste suiveur de l'OGC Nice. Comment ça va, Guillaume?
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Bah, ça va très bien. Pas de victoire ce week-end, mais quand même le sourire. Et je sens quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le club. Il y a une unité qui est en train de se reformer. Et pour moi, comme pour de nombreux supporters, ça se ressent sur le terrain, dans le stade. Donc on vient avec le sourire.
On sent qu'il y a un petit déclic hein, dans cette période pour l'OGC Nice. Il partage le même avis, je pense, Guy, supporter de l'OGC Nice et correspondant pour Nice Matin. Ça, c'est important. Et on l'avait oublié trop souvent ces derniers temps que vous étiez invité.
Nice Matin, c'est très important, ouais. C'est vrai. Bonsoir à tous d'abord, mais ravi. La guérison n'est pas totale, mais les analyses sont bonnes. Donc,
vous parlez de nos analyses là sur le plateau ?
Non, je parle de celles de l'OGC Nice. on sent que les choses ont changé. On sent de l'envie, donc ça donne du baume au cœur.
Guy, on prend la direction de l'Alliance Riviera.
Allez,
pour voir ce qui s'est passé entre l'OGC Nice et le Stade Brestois. C'était dimanche avec ce pénalty transformé après une situation très litigieuse. On y reviendra. Pénalty transformé par Romain Del Castillo. Deuxième but coup sur coup du Stade Brestois grâce à Kamori Doumbia. On se dit que le gym va couler, mais c'est tout le contraire au retour des vestiaires. Sur ce corner de Jonathan Klaus, Ali Abdi vient réduire la marque pour 30 dernières minutes de folie. L'ancien Lensois est toujours dans ses œuvres. Pas de faute signalée sur Kevin Carlos. Aucun souci, ça profite à Eli Wahi qui remporte son duel avec Kouder. Troisième but sur ses 4 premiers matchs pour la bonne pioche du mercato hivernal côté gym. La dernière occasion de la partie, elle sera pour Tom Louchet en 20. Les amis, je me tourne vers toi, Nico. Pas de vainqueur entre les deux équipes de partout. On va évacuer le dossier Frappard tout de suite. On y va
comme ça. Mieux,
on n'y pense plus. D'ailleurs, on va le faire directement avec Eric Roy, qui nous a dit quelque chose d'intéressant en conférence de presse après match. On y va.
Après, moi, vous savez ce que je pense de ces genres de pénalty. C'est des trucs un peu. Mais bon, ce soir. Et c'est des règles, malheureusement. C'est un coup de chance, un coup un peu heureux, même si. Voilà, il y avait une bonne projection dans la surface, il y avait la volonté d'avoir un centre derrière. C'est venu malencontreusement toucher la main du capitaine Dante. Ça reste pour moi toujours des situations qui sont, même si elles sont favorables pour nous ce soir, qui ne sont pas très football à mon sens, mais c'est comme ça.
Il a tout dit, Eric Roy.
Ouais, mais il n'y a pas que le penalty, hein. C'est l'arbitrage, c'était catastrophique.
On reste sur ce penalty, on analysera aussi d'autres situations, mais comment vous la lisez cette
décision?
Ouais, cette décision, elle était là, derrière justement l'action, sous ses yeux. Et pourtant,
je pense que pour le coup, c'est la règle qui est mal faite, plutôt que la décision de Stéphanie Frappart qui applique juste bêtement le règlement, sans prendre en considération le mouvement du corps de Dante qui est dans sa course, qui est en train de mettre son bras derrière le corps. Donc, à part se couper le bras, il ne peut rien faire d'autre. Donc, les règles, elles sont là, mais il faut aussi les interpréter différemment, je pense, en fonction de l'action. Surtout qu'il n'y a aucun danger, il n'y a personne dans la surface derrière. Mais c'est à l'image de cet arbitre qui est juste catastrophique à chaque fois qu'elle a le sifflet dans la bouche, quoi.
Pourtant, si on regarde le bilan de Stéphanie Frappart quand elle a arbitré l'OGC Nice, il est 7 victoires pour le gym, 4 nuls et 2 défaites, dont évidemment la finale de la Coupe de France. Guillaume, je ne suis pas du tout d'accord avec les décisions arbitrales et je m'arrêterai là. C'est ce qu'a déclaré Claude Puel en conférence de presse d'après match. Stéphanie Frappart qui, au-delà de ce pénalty sifflé, Nicolas l'a dit juste avant, a eu d'autres décisions contestable, elle n'a pas les idées en tout cas sur les cartons jaunes dans cette rencontre.
Il y a les cartons jaunes, mais il y a aussi le jeu en général. En fait, le moindre contact, il est sifflé, ça coupe complètement le jeu. Et sur le pénalty, bon, ça donne l'avantage à Brest, mais en fait, c'est tout un match qui est impacté derrière. Le jeu manque de rythme à cause de l'arbitre. Bon, les deux équipes sont arbitrées de la même façon parce que l'arbitre n'avantage pas une équipe plus qu'une autre, mais du coup ça casse complètement le rythme du match.
Guy, on clôture cette page de Stéphanie Frappart. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette décision? On revient un petit peu sur le pénalty.
Moi, je pense que Stéphanie Frappart, elle est placée au pinacle par toutes les instances dirigeantes. Elle officie en Coupe d'Europe. Elle a plein de belles rencontres à diriger, mais elle manque totalement de pédagogie. On la voit jamais parler à un joueur, elle n'a que la répression, semble-t-il, comme arme de défense, quoi. Et c'est jamais bon, parce que je pense que si elle se met les joueurs d'eau, ça crée, comme le disait Game, ça crée pour tout le match, ça pourrit tout le match, en fait.
Effectivement, on ferme cette page Frappart, ça va, on lui a accordé 7 minutes, c'est déjà beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
Nico, l'OGC Nice menait 2-0 à la 23e minute, la tête dans le guidon, peut-être les souvenirs aussi de la débâcle dans la tête à Toulouse 2 semaines plus tôt. Il y avait tous les ingrédients finalement pour voir ce groupe lâcher, mais c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines, il y a du cœur cette équipe.
Ben, ce qui est terrible, c'est qu'on est mené au score 2-0, mais ils ne sont pas si dangereux que ça, à part ces deux situations. Et puis nous, on sent qu'on n'est pas loin de se procurer des occasions, qu'on a un peu de déchets, mais qu'on est bien dans le match. Et on a eu le mérite de ne pas sombrer. Ça a été le cas pendant des mois, on n'a pas sombré, on a continué. Je trouve aussi qu'on a été très patient dans la construction de notre jeu, on ne s'est pas affolé. Et je pense que ça a payé. Je pense qu'il faut aussi parler du coaching de Claude Puel. Francaise avait tendance à beaucoup attendre, à être assez frileux. Lui, il a pas hésité à lancer Kyle Boudache à la mi-temps, qui a apporté beaucoup de peps.
Petit protégé,
mais ça prouve que voilà, quand ça va pas, il n'hésite pas à changer, peu importe les statuts, peu importe les rôles de chacun dans le groupe, et ça a redistribué les cartes, et ça concerne tout le monde, et c'est vachement positif.
Guillaume, un point de gagné où finalement on reste un petit peu sur notre fin, parce qu'il y avait la possibilité peut-être d'aller chercher cette victoire.
Non, c'est un point de gagné, il ne faut pas être trop gourmand, il faut se souvenir qu'il y a un mois, on était encore en pleine crise. Faut pas se brûler les ailes, faut pas se voir trop grand. Ce point, il est bien. Brest, c'est quand même solide. C'est, avec tout le respect du FC Nantes, c'est quand même un cran au-dessus en termes de niveau par rapport à la semaine dernière. Et Nice a réussi à y faire face. Donc c'est quand même beau de prendre ce point. Et contre d'autres équipes encore un peu plus fortes, revenir de 0-2 à 2-2, ça aurait été compliqué. Là, il faut se satisfaire de ce point, je pense, pour ce week-end.
Claude Puel a à peu près la même lecture que Guillaume sur ce plateau. On l'écoute. C'était au terme de la rencontre face au Stade Brestois.
Il y a toujours de la déception de ne pas prendre 3 points. Surtout vu la tournure de ce match, les événements, le scénario et tout ce qu'on a subi, entre guillemets. Donc je veux rester... Ce soir sur le caractère, l'orgueil qu'on a eu, je trouve qu'on s'est dépouillé. On s'est dépouillé dans le bon sens du terme et ça m'intéresse, ça me plaît beaucoup.
Mais finalement, il y croyait quand même un peu plus, hein, Claude Puel, qui a évoqué la déception. Guy, c'est le jour et la nuit quand on pense à OGC Nice d'il y a quelques semaines. On s'en souvient, incapable de revenir dans les rencontres. L'hostilité également des supporters. Francaise qu'on voyait après les conférences de presse résigné. On sent qu'il y a, on parlait de déclic au début de l'émission, on sent qu'il y en a un véritablement ces derniers temps.
Oui, mais déjà ce que je voudrais souligner, c'est que Brest, j'ai trouvé que c'était une très belle équipe. Je pense que leur campagne européenne de l'année dernière, où ils ont flambé, leur a fait beaucoup de bien, ça a apporté une sérénité, une maîtrise du jeu. L'entraîneur Éric Roy aussi a pris du galon avec cette campagne. Donc c'est une très belle équipe contre qui on a fait match nul. Et pour revenir à ce que vous disiez, je pense que c'est vrai que l'OGC Nice, à l'époque, il y a quelques mois, maintenant on peut dire, c'était un bateau à la dérive complète, quoi. Il n'y avait plus de direction, il n'y avait plus aucun ordre dans le club. Et le retour des deux présidents, l'arrivée de Claude Puel met de l'ordre dans la boutique, quoi.
On parlait des supporters, Nico. L'image peut-être aussi d'hier, c'est cette communion à la fin de la rencontre entre les joueurs et la Brigade Sud. Des images aussi, il faut bien le dire, qui nous avaient manqué depuis trop longtemps.
Ah oui, c'est clair. On a vu la différence. Peut-être que sans les supporters, ce match, on va pas chercher le point du match nul. Mais comme quoi, quand les joueurs ils trichent pas et qu'ils donnent tout, peu importe le résultat, les supporters ils sont derrière eux. Il y a encore eu une super ambiance tout au long du match. C'est génial, je trouve, d'avoir apaisé les choses. Et ça montre qu'encore une fois, quand les joueurs ils sont à 100% concernés et qu'on enlève un peu toutes les tensions qu'il peut y avoir, et qu'on fait union, on sera largement meilleur.
Et on s'attend à la même ambiance. D'ailleurs, ce mercredi à 20h30 en Coupe de France, Nice-Montpellier, pour une place en quart de finale, le MHSC cette année en Ligue 2, et bien ça donne ça. On vous a fait un petit récap sur l'équipe Héraultaise. Ils sont à 7 points du deuxième, à 3 longueurs du cinquième, sans doute le meilleur moyen, les barrages cette année, pour viser la remontée en Ligue 1. Les joueurs de Papus Camara qui sont sur une série de 2 victoires consécutives contre Bastia et Guingamp, 4 tours passés en Coupe de France également, Agde, Montsauveur, Bourgogne, Canet-Roussillon et le FC Metz, victoire 4-0 quand même contre le plus mauvais élève de notre championnat. Et puis les joueurs à suivre, évidemment, TJ Savani, Alexandre Mendy qui fait une belle saison offensivement, ou encore Nathanaël aime beaucoup. Guillaume, ça ressemble à une dernière danse pour l'Europe quand même, cette Coupe de France, hein.
Alors sincèrement, l'OGC Nice et je pense ses supporters, s'ils vont au bout de la Coupe de France, c'est pas pour aller chercher l'Europe, à mon avis c'est pour aller chercher un trophée avant tout. Mais oui, clairement, on est à 4 matchs de la finalité de cette compétition. Autant la jouer à fond, d'autant plus qu'on a un adversaire là abordable. On aurait pu avoir un tirage plus compliqué. Donc oui, pour moi, c'est sur ça qu'il faut se concentrer jusqu'à la fin de la saison. Il faut jouer le coup à fond, quoi.
Guy, quand on prend les 6 affiches des 10 dernières finales de Coupe de France, on s'aperçoit qu'il y a eu des Nantes-Nice, des Toulouse-Nantes, des Paris-Reims, Paris-Saint-Etienne, Paris-Angers, Paris-Les Herbiers. On sait que le Paris Saint-Germain et Lille sont éliminés de cette édition de la Coupe de France. Ça paraît pas improbable, finalement, de faire un beau parcours cette année.
Oui, c'est possible. Et puis pour nous, ce serait aussi l'occasion de maintenir cette dynamique qui s'est installée. Parce que je pense pas qu'on puisse choisir des objectifs. En fait, on joue comme l'équipe a envie de jouer. Mais par contre, il faut se méfier parce que la Coupe cette année, c'est un objectif pour pas mal de clubs UP, notamment Marseille, ouais, qui eux aussi veulent à tout prix un trophée. Et à mon avis, il y a toute la population marseillaise qui le souhaite, donc ils vont avoir une pression de fou. Et sachant que Paris est parti.
Après, il y a quand même un côté positif dans cette Coupe de France, c'est qu'il n'y a plus de petits poussés, donc il n'y a plus forcément la possibilité de voir Nice sorti par le Stade Briochin ou par d'autres équipes. On sait que c'est un petit peu l'ADN du club. Là, au moins, il y a que des formations de Ligue 1 ou Ligue 2.
On peut peut-être qualifier Montpellier de petit poussé aussi, le dernier. Donc il ne faut pas que le dernier petit poussé nous file un coup de pied.
Nico, on parle de cette Coupe de France, mais on parle aussi de l'actualité de cette semaine. Je sais que vous attendez ce moment, évidemment. Les départs consécutifs de Terem Moffi et de Jeremy Boggan. Vous les aviez surnommés comment la semaine dernière, les deux?
Deux peintres.
Je me rappelle.
Ouais, ouais. C'était dans la même veine. Quand on voit Jeremy Boga, quand même, qui part à la Juventus, Terem Moffi, chez le leader du championnat portugais, on dit qu'il y a quoi, qu'il n'y a pas de justice dans le foot.
Ben on se dit surtout que c'est les agents qui font les carrières maintenant. Ouais, quand tu vois qu'un mec comme Jérémy Boga ou Terem Moffi, qui en plus d'être en arrêt maladie pour traumatisme grave depuis 3 mois, enfin depuis je sais pas 2 mois, avant ça ils n'étaient pas bons. Ils étaient irréguliers, ils n'étaient pas bons. Et quand tu vois à côté, on en parle la semaine dernière, un garçon comme Hicham Boudaoui qui malgré toutes ses lacunes est quand même régulier, je trouve, en Ligue 1 depuis 6 ans, s'est affirmé comme un milieu de terrain fiable. Est toujours entre guillemets bloqué à l'OGC Nice et n'a pas eu l'occasion d'aller plus haut. Ça prouve qu'aujourd'hui les agents font les carrières.
Messieurs, avant de passer au top flop, petit point infirmerie et composition. L'OGC Nice privé seulement entre guillemets de 5 joueurs hier, dont Djoumava suspendu, remplacé par Dante, ce qui a amené à cette composition d'équipe avec un changement opéré par Claude Puel, a signalé les bonnes rentrées notamment de Kyle Boudache et même de Kevin Carlos, hein, l'espagnol impliqué sur le deuxième but. Voilà, vous la voyez cette composition à l'écran de l'OGC Nice. Vous avez 30 secondes, même pas, pour penser à un top et à un flop, histoire de les confronter à ceux de mes invités en plateau juste après la pub. Restez bien avec nous pour la deuxième partie de Cop et Loin, tout de suite.
Besoin d'être accompagné en cas de sinistre, d'un diagnostic, audit ou d'un suivi de chantier? Depuis 1992, le groupe Jocin donne à votre patrimoine l'expertise qu'il mérite. On s'occupe de tout et surtout de vous. Groupe Jocin, le groupe qu'il faut pour les pros, le perso et vos copros.
Dans un monde où le recrutement prend un tout nouveau virage, se faire accompagner n'a jamais été aussi indispensable. Comment recruter autrement ?
Quelles sont les solutions qui marchent ? Comment trouver les bons profils ? Et surtout, comment répondre aux attentes des candidats ?
BFM Nice Côte d'Azur vous donne les clés avec une émission spéciale. Cap sur l'emploi.
Les clés du recrutement.
Présentée par Karine Dany. Cette émission décrypte les nouveaux enjeux du recrutement.
De répondre aux besoins des entreprises.
Donne la parole aux experts et met en lumière des solutions concrètes qui font la différence.
C'est pas parce que vous n'avez pas le CV adéquat, pas les diplômes, que vous ne pouvez pas prétendre à des postes comme ça.
Rendez-vous mercredi 4 février à 20h sur BFM Nice Côte d'Azur. La chaîne de votre quotidien.
C'était Cap sur l'emploi, les clés du recrutement avec France Travail Pro, le partenaire RH de toutes les entreprises.
De retour sur le plateau de Copégon pour revenir sur ce match nul de partout face au Stade Brestois, qui est particulièrement dissipé ce soir. Qu'est-ce qui se passe, Guy?
Discussion avec
Naninho à côté.
Il me parle de Boudache.
Ouais, donc forcément, c'est un sujet de discussion. C'est son truc, hein, évidemment. Il est temps de parler des 22 acteurs maintenant, pour le meilleur et pour le pire. C'est cette séquence, vous attendez tous, les top flops. C'est parti. Allez Guy, on y va. Avec le top du soir, c'est Sofiane Diop. Le flop, en revanche, c'est Salis Abdoul Sabed.
Oui, c'est ça. Donc top Diop pour sa première mi-temps. Je le précise parce que en seconde mi-temps, c'est ce qu'on disait hors antenne. Il a été un peu plus discret en seconde mi-temps. On a même eu peur qu'il... À chaque fois, d'ailleurs, à chaque match, on a peur qu'il se blesse. Le match précédent, il était sorti en se tenant la cuisse. Là, il avait des grimaces inquiétantes. Mais je lui donne mon top pour sa première mi-temps. Et puis, Abdoul Samed, transparent un petit peu. Hein.
Dans la lignée de ce qu'il fait.
Ouais, c'est pas un joueur qui apporte énormément, quoi. Et je pense qu'on a autant, on a aussi bien en magasin.
Guillaume, top flop du soir. D'un côté, Liwai, forcément, son troisième but en 4 rencontres. Et puis, un flop qui fera débattre, en tout cas, ce soir. Il a osé mettre Dante.
Ouais, j'ai mis Liwai pour son but, mais avant tout pour son état d'esprit. Si vous revoyez sa célébration, il glisse.
À la Drogba.
Voilà, exactement. Ouais, avec la hargne, la joie, la passion. Et c'est absolument ce qui manquait à Nice et c'est ce qui donne à cette équipe qui en manquait cruellement. Et en flop, j'ai mis Dante. Pourquoi ? Alors, on ne va pas parler de la main du premier but sur le pénalty.
C'est petit de votre part.
Ça serait très petit.
Mais tu sais que c'est un sacrilège de mettre Dante en flop.
C'est vrai que je pense que personne n'a osé. Hein, depuis
c'est vrai. Non, mais il faut faire. Il faut mettre. Il faut mettre à part les appréciations des joueurs.
Et les sentiments.
Exactement. Sur le deuxième but, il se fait notamment prendre par Ludovic Ajorc. Je pense qu'il aurait pu mieux faire, mais plus globalement, j'attendais une défense un peu plus soudée avec Dante, un état d'esprit défensif un peu plus combatif, un peu plus hermétique. Et finalement, Nice a pris deux buts, un peu comme d'habitude, on va dire. La défense qui n'a pas retrouvé son élan. Je reste un peu sur ma faim au niveau défensif et je pensais que Dante allait pouvoir rapporter un peu plus d'unité.
Nico, un membre de la défense à 4 qui est dans les tops ce soir, c'est Jonathan Clauss sans surprise. Et sans surprise non plus, puisque là maintenant c'est la norme depuis quelques semaines, c'est Morgan Sanson qui maintenant est devenu le nouveau Salis Abdoul-Samed.
C'est bon, j'ai compris, j'arrête d'en parler.
Ouais.
J'attends plus rien vu avec ballon, mais je loue qui court, heureusement. Mais Jonathan Clauss encore, ça fait un moment que je le mets lui aussi parce que. Il a un pied qui est incroyable, il est encore décisif sur coup de pied arrêté. Et c'est un poison pour l'adversaire parce que dès qu'il y a une ouverture, tu sais qu'il va te donner un ballon dans la surface qui est super intéressant. Et c'est une solution magnifique pour l'OGC Nice. Et puis il a l'air absolument concerné et les soucis derrière lui. Donc je trouve ça génial. Et en flop, du coup, Morgan Sanson, ça m'embête parce qu'il est généreux et que c'est un joueur qui se donne et que j'apprécie en soi parce que c'est un bon joueur de football, mais je trouve qu'il est encore en dessous de ce qu'il doit apporter à cette équipe. Je trouve qu'il a la fâcheuse tendance de ralentir le jeu sur de nombreuses situations en jouant beaucoup plus rapidement. Il va à chaque fois s'enfermer avec le ballon, à chercher une faute et c'est dommage. Je l'ai trouvé déjà meilleur reculé parce que si tu confies les clés du jeu à Morgan Sanson, je trouve que c'est contre-productif parce qu'il n'est pas à son top. Donc à la place d'Abdoul-Samed, ça a été un peu mieux, mais je pense qu'on a un droit d'en attendre beaucoup plus de sa part.
Vous y croyez un petit renouveau contre l'AS Monaco?
Ouais, je pense.
Ce dimanche?
J'espère. Après, je pense que le fait d'enchaîner, ça va lui faire du bien, mais on peut en parler, oui.
On peut en parler, tout de suite. Allez, c'est parti dans le focus. <rire> 19h22, on est dans le temps additionnel de cette émission. Rentre de plein pied dans ce focus spécial derby. Nice et Monaco s'affrontent ce dimanche à 15h. Deux clubs quasiment à la même trajectoire. Moribond est à la dérive pendant plusieurs semaines. Deux larges victoires contre Nantes et Rennes leur ont redonné des couleurs et quelques certitudes juste après les débâcles de Toulouse et Lorient. À J-6 d'un des matchs à suivre de cette 21e journée de Ligue 1. Quelle formation se présentera à l'Allianz Riviera dans la peau du favori? Quelle équipe voyez-vous prendre l'ascendant? Oui, non, et puis après on en débat juste après. Guy. Plutôt Monaco ou Nice, et on en parlera juste après.
Monaco ou Nice, donc c'est forcément Nice. Alors même je vais parler doucement parce que les supporters monégasques sont pas loin, ils vont nous succéder sur ce plateau.
Oh, tu crains rien.
On développera après, plutôt Nice.
Plutôt
Nico.
Nice.
Moi, je dirais plutôt Monaco, même si ça se joue dans un mouchoir de poche.
Plutôt Monaco. Allez, on se tourne vers Guillaume, qui nous a fait déjà Dante en flop, et puis là, qui nous dit que c'est Monaco qui va aller s'imposer dans Zerbi. Allez-y, Guillaume.
Alors, je dirais Monaco, parce que déjà, la semaine dernière, Monaco a retrouvé la confiance en se qualifiant pour la phase finale de Ligue des Champions. Monaco a tenu contre la Juventus, qui n'est pas dans sa meilleure forme sur les dernières années, mais qui reste quand même une grosse équipe européenne.
Mais maintenant, ils vont avoir beau gars.
C'est pas faux. Et Monaco qui a confirmé sa confiance ce week-end en battant Rennes, qui quand même est une équipe qui joue les premières places en Ligue 1. Donc confiance notamment offensive. Et quand on connaît les dérives défensives de Nice, j'ai peur que ça fasse un peu mal.
Guy.
Oui, j'ai un peu peur quand même de cette équipe monégasque parce qu'ils ont des armes.
Il vous a convaincu presque, Guillaume.
Non, mais ils ont des armes quand même de destruction massive. Ils ont Balogun, ils ont des
Balogun incertain, attention.
Ah.
Balogun incertain, Fati aussi incertain. Ce qui changeait quand même beaucoup la donne.
Ça changerait pas mal la donne. Alors, quitte à ce qu'ils mettent Birette qui retrouverait des couleurs. Mais bon, je suis quand même confiant avec l'état d'esprit de l'OGC Nice actuel. Je pense qu'on va avoir. J'espère que les supporters vont suivre et qu'ils vont nous faire, comme à la belle époque, une montée en scooter jusqu'à Monaco.
C'est l'Alliance là.
Ah non, c'est à l'Alliance. Ah oui, d'accord. Bon, mais alors ça va. Posez les scooters, les gars, on est sur place. Non, ça peut être... en plus, avec la Pop Sud et tout, je pense que je maintiens mon pronostic.
Nico, on pose les scooters et on reste à l'Alliance Riviera. Alors, favori, l'OGC Nice ?
Favori, je sais pas. En tout cas, moi, je crois à une victoire parce que je pense qu'il y a aussi la volonté chez les joueurs de se faire pardonner sur plusieurs échéances ratées. Je pense que Monaco a fait un très bon match contre Rennes, mais reste assez friable défensivement, a potentiellement pas mal d'absents. Nous, on en récupère de plus en plus au fil des matchs, en espérant ne pas en avoir de nouveau d'ici là avec les matchs contre Montpellier. Donc, je suis confiant, on a un bon état d'esprit. On a une attaque qui est très intéressante, je trouve, avec ces trois joueurs devant qui posent beaucoup de problèmes. Et puis, on récupère Dante. Je trouve que les signaux sont de plus en plus au vert pour l'OGC Nice. Et ce match contre Monaco pourrait marquer le début. Le vrai début du renouveau, et c'est pour ça que j'y crois.
Guillaume, on peut imaginer d'ailleurs Nice laisser la possession de balle à Monaco. On sait que justement l'ASM est en difficulté face au bloc bas, ça s'est vérifié depuis le début de la saison.
Depuis son arrivée, Claude Puel arrive bien à s'adapter à ses adversaires. On l'a vu la semaine dernière contre Nantes où Nice avait joué en transition offensive. Là, on l'a vu aussi contre Brest. C'était assez bien négocié. Donc, je ne doute pas que Claude Puel, contre Monaco, encore va cibler les faiblesses adverses. Après, ça reste un match. Et on l'a vu au match aller, il y avait eu un gros combat. Et les deux équipes étaient assez proches en termes de niveau. Donc je doute pas que ce week-end ce soit un peu pareil.
Guy, avec Yevan Diouf ou Maxime Dupé contre Monaco?
Je sais pas, c'est un débat qui s'installe là, hein, parce que je sais pas. Diouf, il a fait quelques prestations un peu difficiles. Dupé, moi, il me rassure pas totalement, même s'il a fait des bons arrêts, mais c'est pas un gardien rassurant. Donc je sais pas, je suis partagé.
Moi, j'ai une préférence pour Diouf quand même. Je trouve que Le plafond de verre, il situe beaucoup plus haut pour Yevan Diouf. Je trouvais qu'avant son départ à la CAN, il prenait de l'importance dans le groupe, au-delà d'être meilleur dans ses cages. Maxime Dupé, il a très très bien assuré l'intérim. Après, est-ce qu'il a l'étoffe d'un numéro 1? Il l'a déjà prouvé par le passé, mais je ne suis pas certain qu'on soit gagnant au change avec Yevan Diouf, qui en plus revient revigoré de sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations, avec beaucoup de confiance. Donc je pense que Yevan Diouf, à terme, sera le numéro 1.
Les amis, on s'achemine vers la fin de cette émission de Coupe Aiglon, qui pronostique quand même pour ce Nice-Monaco. Guillaume,
je vais dire un partout.
2-1 pour Nice.
1-0 pour Nice.
1-0 pour Nice, vraiment.
Tu veux les boudages?
Tu vas te passer?
Tu veux les buts?
Oui,
allez. Boudage.
Attention, on va le ressortir, hein, si effectivement quel boudage est le buteur dimanche à 15h. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir été avec moi ce soir dans Coupe Aiglon. Avant de se quitter, on s'intéresse au classement de cette Ligue 1 avec ce mano à mano entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Avantage PSG depuis deux journées. Deux, c'est le nombre de points d'heure qui sépare les deux formations. Podium complété par les deux Olympiques à 39 minutes chacun. Les Phocéens sont 3e à la faveur d'une meilleure différence de but. On retrouve l'OGC Nice dans la deuxième partie de tableau, vous le voyez, toujours à la 13e place avec 22 points, 8 de plus désormais que le barragiste nantais, tandis qu'Auxerre et Metz ne décollent pas. Quelle va être la suite pour l'OGC Nice? On va s'y intéresser dans un instant avec le calendrier du gym à suivre, la réception de Montpellier mercredi à 20h30 pour les 8e de finale de Coupe de France, tirage au sort prévu le lendemain à 19h50, et puis vous l'avez compris, le derby de la Côte d'Azur dimanche à 15h, édition spéciale supporter à retrouver lundi prochain en compagnie de Nico ici présent, John, Yann et Joao. Pendant une heure, les incontournables de Coupe Aiglon et Coupe Monaco vont débattre ensemble pour la première fois à la télévision française, on peut le dire. Soyez au rendez-vous. Lyon, Lorient et le Paris FC clôtureront ce mois de février. C'est la fin de Coupe Aiglon. On se retrouve lundi prochain à 19h, même lieu, même heure. D'ici là, passez une excellente semaine. Bye bye.